Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission « L'info sur tous les fronts ». Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cadre de la Semaine de la presse et de la radio, pour évaluer les impacts de la presse et en quoi elle est en constante évolution. Nous apprendrons, grâce à des intervenants des classes du CM2 à la terminale, le pouvoir immense qu'a la presse et les conséquences qu'elle a sur l'opinion publique, notamment en temps de guerre. Mais d'abord, commençons par le petit journal local qui nous est présenté par les élèves du CM2 du LCS. Nous verrons ainsi les dernières actus de notre établissement franco-australien. D'abord, quelles sont les nouveautés du lycée ?
Hé, Félix, tu sais ce qui se passe le 1er avril ?
Bah oui, simple, c'est les poissons d'avril.
Mais non, pas ça, on te parle de la fête de l'école. Tu te rappelles pas qu'on a interviewé Madame Bronner ?
Ah oui, c'est vrai, nous lui avons posé des questions. Devine combien de stands il y aura ?
20 stands ?
Non, il y aura 40 stands de jeux pour enfants et des stands de nourriture. Il y aura même des chorales.
Mais à quoi sert cette fête ?
Cette fête sert à célébrer la fin de l'année scolaire.
Et où ira l'argent de... lors de la fête ?
L'argent récupéré pendant la fête ira à l'association Parents and Friends et au terminal pour aider à financer leur gala de fin d'année.
Mais en fait, quand est-ce que ça commence et que ça se termine ?
Ça commence à 10h du mat et ça se termine à 15h.
Ça a l'air super cette fête.
Ouais, ça a l'air trop ouf.
Carrément !
Bonjour. Aujourd'hui, on va vous parler d'une actualité de notre école, le CAPN.
Au fait, c'était quand ?
C'était du 13 mars au 17 mars 2023.
Dis Lily, c'est quoi le CAPN ?
Ce sont les championnats d'Asie-Pacifique de natation.
On a pu interviewer Yannick Proutot qui travaille au lycée Condorcet de Sydney et qui s'occupe de faire le lien entre les professeurs de sport et les délégations. Il organise le transport, les repas, les sorties et les fêtes.
Mais au fait, Léana, pourquoi a-t-on créé le CAPN ?
C'est pour réunir les délégations, pour créer des liens entre les différents lycées français de la zone.
Mais Lily, quelles écoles y ont participé ?
Il y avait les écoles de Shanghai, Singapour, Phnom Penh, Ho Chi Minh, Séoul, Bangkok, Hong Kong et Sydney, notre école.
Mais Léana, que font-ils toute la journée ?
Pendant cette compétition, les athlètes ne font que du sport. Ils n'ont pas de devoirs, les chanceux.
Eh ben, quelle journée épuisante !
Mais ils ont fait quelques sorties.
Ah, tu me rassures.
Par exemple, Marupra Beach, l'Opera House, ils ont même fait la fête.
Combien d'élèves ont participé ?
188 élèves. Les athlètes dormaient à l'auberge de jeunesse au CBD de Sydney. Ils ont nagé au centre aquatique d'Estrenford.
Pendant la semaine, il y a eu plusieurs compétitions. Des compétitions filles-con-filles, garçons-con-garçons ou des compétitions mixtes. On a pu gagner une... Pour gagner une course, on doit être le plus rapide. Le vendredi, la coupe des délégations a été remise à la meilleure délégation. Cette année, notre lycée a gagné. C'était la quatrième fois en tout et la troisième fois d'affilée.
On a demandé à Yannick Proutot s'il pouvait choisir trois mots pour décrire le CAPN. Il a répondu.
Enthousiasme, équipe et dépassement de soi.
Cette année, la compétition s'est passée à Sydney. En avant-première, nous allons dévoiler que l'année prochaine, Phnom Penh accueillera le championnat.
Le mot de la fin sera pour Oscar, un élève de CM2B qui a participé au championnat.
Bonjour Oscar. On va te poser deux questions sur le CAPN. Qu'as-tu pensé de cette semaine ?
C'était passionnant, excitant et ça a pris beaucoup de courage pour les nageurs.
Quel était ton moment préféré ?
J'ai rencontré une Olympienne, Solène Figg, et on a fait beaucoup d'exercices avec elle.
Merci, à bientôt.
Merci beaucoup au CM2 pour votre présentation révélatrice des actualités de notre lycée. Nous entrons à présent dans le vif du sujet. Suite à l'incident du ballon espion chinois, nous avons effectué un sondage au sein des élèves du lycée. Pour savoir comment chacun s'informe. Nous avons pu constater qu'un tiers des élèves s'informent sur le réseau social Instagram et aucun grâce à la presse écrite. L'accès à l'information est donc colossalement évolué depuis l'apparition des médias. Nous nous intéressons donc à l'importance de la presse pour forger son opinion personnelle et ses impacts sur l'opinion publique. Nous accueillons tout d'abord des élèves de première en spécialité HGGSP pour nous parler de l'importance de la presse en temps de guerre, notamment pendant le conflit vietnamien et l'invasion ukrainienne.
Bonjour, je m'appelle Amélie Petit et avec mes camarades, nous avons la chance de suivre la spécialité Histoire, Géographie, Géopolitique, Sciences politiques. Elle nous permet de comprendre la complexité des relations internationales dans le monde aujourd'hui. Le thème que nous étudions en ce moment s'intitule « S'informer, un regard critique sur les sources et modes de communication ». Il a pour objectif de nous aider à saisir les enjeux de l'information, son contrôle et sa manipulation, qui nous amènent à nous interroger sur notre liberté. Ce sujet est particulièrement d'actualité, comme va nous le montrer notre camarade Samuel, en nous présentant le rôle des médias au sein du conflit ukrainien.
Merci Amélie. En effet, un simple regard sur les réseaux sociaux permet de comprendre la complexité des relations entre les deux pays. Le conflit a pour objet les territoires frontaliers à l'est de l'Ukraine, le Donbass et la Crimée. Cette dernière ayant été annexée par la Russie depuis 2014. L'agression russe contre l'Ukraine, déclenchée le 24 février 2022, il y a tout juste un an donc, a entraîné un conflit violent et meurtrier qui semble sans issue, dans lequel les médias, surtout les réseaux sociaux, jouent un rôle primordial. La propagande est en effet utilisée par les deux camps dans le but de mobiliser les opinions publiques internationales. Un niveau de propagande extrême sévit en Russie, où a été récemment diffusée une vidéo de propagande du gouvernement russe montrant une famille européenne frigorifiée. Tout cela à cause d'un manque d'énergie, ou plus précisément du gaz russe, évidemment. L'opinion n'est pas manipulée seulement en Russie, mais bien au niveau international et par les deux camps. Le conflit ne se joue pas seulement sur le terrain, mais aussi sur les réseaux d'information. L'Ukraine n'est pas en reste et contre-attaque régulièrement pour garder en sa faveur l'opinion occidentale. N'oublions pas que le président ukrainien a une formation d'acteur. Il en tire parti dans ses communications télévisuelles avec des messages forts et un visage de circonstances. On pense par exemple au sabotage en avril 2022 en mer Noire d'un des plus importants navires de la flotte russe qui a été largement utilisé par Kiev pour illustrer les faiblesses militaires de la Russie et la supériorité de l'Ukraine sur son agresseur.
Merci Samuel. En effet, c'est un thème captivant grâce à sa complexité et son importance surgissante dans les dernières années. Nous nous intéresserons donc à comment le développement d'Internet révolutionne-t-il la diffusion de l'information par rapport au conflit de l'Ukraine et de la Russie. L'Internet a été créé originalement pour avancer des affaires scientifiques et militaires et continue ainsi. Nous allons voir que dans la guerre en Ukraine, les réseaux sociaux ont eu un rôle percutant, notamment dans la diffusion d'informations. Grâce au nombre excessif d'informations de nos jours par les réseaux sociaux, il est facile d'être mal informé et donc de recevoir des fake news. Un des objets de diffuser autant d'informations serait de changer et influencer l'opinion publique pour soutenir leurs idées ou, dans le cas ukrainien, recevoir de l'aide. Les réseaux sociaux ont été aussi utilisés pour rassembler les partisans des deux côtés du conflit. Des manifestations, rassemblements et pétitions ont été organisées via les réseaux sociaux pour soutenir leur cause. Par exemple, plus de 3000 personnes se sont rassemblées par un groupe de Facebook le 2 mars 2023, à Paris, en soutien de l'Ukraine. Au lendemain des manifestations en France et en Europe pour marquer le premier anniversaire de l'invasion du pays par la Russie. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle important dans la coordination de l'aide humanitaire. Des plateformes comme Facebook et Twitter ont été utilisées pour partager des informations sur les besoins en aide et la manière dont les gens peuvent aider la population ukrainienne, comme en envoyant des casques, des services médicaux et des armures corporelles. Les plateformes ont fourni un outil puissant pour atteindre un public plus large au-delà des médias, qui peuvent être contrôlés ou censurés, comme les journaux télévisés. Les lanceurs d'alerte ont utilisé les médias sociaux pour partager des informations sur la corruption et les abus de droits de l'homme, ainsi que documenter des preuves de mauvaise conduite et se connecter avec d'autres activistes et défenseurs de droits humains pour faire progresser pression sur les gouvernements et les institutions à agir.
Mais tout cela n'est pas nouveau, sachant que la guerre du Vietnam est le premier conflit entièrement médiatisé. Le rôle de l'information a beaucoup évolué depuis de nombreuses années et a surtout permis à différents acteurs de transmettre plusieurs idées, valeurs et idéologies. Ma camarade de spécialité, Rebecca, prend tout de suite le relais en vous parlant de l'importance de la propagande et des médias lors de cet affrontement sur lesquels ces derniers ont eu un impact.
En effet, l'information est une nécessité pour forger son opinion personnelle. Mais l'accès à des informations de bonne qualité n'est pas garanti, surtout en temps de guerre. Dans le contexte de la guerre froide, le conflit vietnamien oppose le bloc USA et le bloc URSS. Suivant la défaite de la France en Indochine en 1954, le pays est séparé en deux États dictatoriaux radicalement différents. Le Nord est communiste, alors que le Sud, pro-occidental. Cette sévère séparation idéologique donne donc naissance à un conflit qui ne ressemble à aucun autre. En effet, il engendre l'usage intensif de la propagande de chaque côté du rideau de fer. C'est aussi la première guerre télévisée. C'est le cas grâce à de nombreuses avancées technologiques de l'époque, comme les premiers appels longue distance. Les médias durant cette guerre ont alors eu un impact non négligeable sur la façon dont le public a réagi à celle-ci. Par exemple, l'affiche de propagande américaine qui montre le drapeau brûlé aux flammes du communisme avec le titre « Is this tomorrow ?», c'est-à-dire « Est-ce demain ?». Comme vous le savez, c'est aussi le cas de l'invasion ukrainienne qui a débuté en janvier 2022. Des supports d'information transmettent des images de guerre avec un but précis, pour transformer l'opinion publique. La Russie, par exemple, pratique encore la censure pour inciter sa population à la suivre dans ses activités conflictuelles. En effet, dans les livres scolaires russes, l'Ukraine est présentée comme faisant partie de leur territoire. Je laisse maintenant la parole à Ulysse, qui vous expliquera en plus de détails les mécanismes et les systèmes d'information.
Merci beaucoup, Rebecca. Alors, tout d'abord, les médias sont en plein essor et de nouvelles manières permettent de documenter les conflits. En ce moment même, le conflit ukrainien est massivement médiatisé sur les réseaux sociaux. Mais les prémices de ce nouveau type de guerre commencent durant celle du Vietnam. La télévision commence à s'installer dans les foyers américains. De plus, les journaux permettent de glorifier chaque action militaire. Du côté sud-occidental, on retrouve aux USA des couvertures du magazine Life glorifiant les soldats américains ou les illustres en pleine action. Tout ceci sans évoquer les difficultés et les crimes de guerre commis par les soldats, à savoir les meurtres, les viols, les massacres de guerre. Cependant, au fur et à mesure des années de conflit, les premiers soldats ayant connu l'horreur du Vietnam reviennent. L'opinion publique sur la question de si la guerre du Vietnam était une erreur change. C'est grâce au travail de la presse et des médias que de nouvelles idées naissent. Le présentateur de la chaîne très connue CBS News, Walter Cronkite, dit que « Nous devons mettre un terme à cette guerre, nous sommes dans une impasse ». Le travail de photographes sur le combat comme Larry Burroughs ou Tim Page a pu contribuer à cette évolution. Je vais maintenant passer la parole à Alice et Ewan pour vous parler des conséquences sur les pays en question.
Merci Ulysse. Et oui, comme mes camarades l'ont mentionné, et à très juste titre d'ailleurs, les médias ont une place importante dans la perception que nous avons du monde. Il en va ainsi des médias américains qui ont joué un rôle primordial pendant la guerre du Vietnam puisqu'à cette époque, ils n'ont pas été censurés. Il faut cependant bien faire la différence entre les informateurs restés sur le sol américain et ceux envoyés sur le lieu du conflit. D'un côté, un gouvernement qui cherche à minimiser les informations sur les dégâts humains de la guerre, s'intéressant bien plus à la lutte contre le communisme qui leur semblait légitime et plus importante. De l'autre, des envoyés spéciaux plongés au cœur du conflit, étant donc témoins de l'horreur que subissent les populations et faisant face, parallèlement, à l'enlisement de l'armée américaine et à l'impasse à laquelle elle était confrontée. Les médias envoyés sur place auraient donc permis d'initier un mouvement contestataire contre cette guerre,
jouant alors un rôle de dénonciateur. Grâce aux images choquantes, comme des clichés d'enfants brûlés par le napalm, envoyés dans les journaux, le peuple américain a rapidement pris conscience de l'horreur de cette guerre, imputable à l'acharnement de l'administration Nixon, président des États-Unis à cette époque. La pression croissante de l'opinion publique en faveur d'une retraite de l'armée américaine s'est traduite par des manifestations de grande ampleur, la création d'associations comme l'Association Vietnam, qui a été la première à soutenir le peuple vietnamien, ou encore le collage abondant d'affiches dans toutes les villes du pays. Les médias se sont donc avérés être un acteur majeur dans le soulèvement du peuple, mécontent de voir son pays s'enliser dans une guerre meurtrière et sans issue.
Au Vietnam, en revanche, les médias sont utilisés par les Nord-Vietnamiens à leur avantage, distribuant de la propagande montrant leur prouesse militaire et l'incompétence des Américains. Cependant, le Vietnam utilise aussi les médias américains à leur bénéfice. En effet, en retournant les médias américains, les Vietnamiens ont pu les transformer en propagande. Premièrement, en engageant des figures médiatiques telles que l'actrice Jane Fonda, le Vietnam capitalise sur l'idée américaine d'être dans une guerre dans laquelle il n'aurait jamais dû participer. Grâce à ces figures, le Vietnam montre au monde qu'ils ont même le support des Américains anti-guerre, mais aussi que les États-Unis sont dans le tort dans ce conflit. Ceci est vu par le monde et incite les Américains à arrêter la guerre. De plus, les horreurs transmises par les médias américains peignent une image du Vietnam en tant que victime de la violence américaine et devient indirectement de la propagande pour le Vietnam. Dénonçant les crimes des Américains lors de leur bombardement et leur utilisation du napalm, un liquide incendiaire, ne discriminant pas les civils des militaires. L'opinion publique est du côté des Vietnamiens et veut arrêter la guerre au sein du Vietnam. Ces médias sont utilisés pour amplifier la colère contre les États-Unis et poussent à continuer la guerre. Les médias ont donc eu un effet inverse au Vietnam. Ceci rappelle encore une fois un affrontement plus récent, l'Ukraine. Tous deux des conflits grandement médiatisés au désavantage de la grande puissance.
Merci Ewan et autres élèves de première pour votre intervention fascinante sur la médiatisation des guerres vietnamiennes et ukrainiennes. Nous avons tous de nouvelles connaissances sur la propagande et l'opposition des superpuissances au XXe et XXIe siècle. Valentin et Gaïa nous rejoignent à présent pour une explication des causes et conséquences de la crise énergétique en France et en Europe. Présentez-nous donc pourquoi la hausse des prix de l'énergie en Europe est liée à la guerre en Ukraine.
L'Europe fait face à une crise énergétique. Cette crise affecte la plupart du continent. Les pays et leurs habitants doivent changer leur mode de vie pour surmonter les pénuries d'énergie. Dis-nous comment, Gaïa.
En effet, Valentin, cet hiver, de nombreux Européens ont eu beaucoup de mal à se chauffer. Les pays les plus affectés par ce problème sont l'Ukraine, la Finlande, l'Estonie, la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie et l'Allemagne. Les prix de l'énergie ont considérablement augmenté, surtout ceux du gaz, dans des proportions devenues problématiques. Le gaz sert à tout dans la vie de tous les jours, à cuisiner, à se doucher, à se chauffer. Pour l'instant, beaucoup de personnes sont protégées par des boucliers tarifaires, des aides gouvernementales et des contrats à long terme. Les autres sources d'énergie sont aussi affectées, comme l'électricité, l'essence, le fuel domestique, etc.
Explique-nous pourquoi, Gaïa.
De multiples causes se sont additionnées pour arriver à ce résultat. Depuis l'invasion de l'Ukraine et les sanctions contre Moscou, Vladimir Poutine n'a cessé de restreindre l'accès au gaz russe dont l'Europe est tragiquement dépendante. La seconde cause est celle de la pandémie du Covid-19, qui a désorganisé les chaînes d'approvisionnement.
Alors, que faire ?
Les populations et les entreprises doivent réduire leur consommation d'énergie en général. Elles ont appelé par exemple à couper la Wi-Fi et débrancher la télévision lorsqu'elles ne les utilisent pas. L'Allemagne a fermé les fontaines, éteint une partie de l'éclairage public après minuit et imposé des douches froides dans les pique-niques dans les piscines municipales. La Grèce a lancé une opération thermostat, dans le but de réduire la consommation d'énergie de 10% cette année et 30% d'ici 2030. Une deuxième solution serait de réduire la vitesse maximale des voitures sur la route pour pouvoir économiser l'essence. Une troisième solution est celle des pompes à chaleur. Si la crise continue, il faudra utiliser la solution ultime, les coupures de gaz et d'électricité.
Merci Valentin et Yaya pour vos informations clés à la compréhension de la crise énergétique européenne. À présent, intéressons-nous, France, autour de la cancel culture. Une bataille intellectuelle semble s'engager aujourd'hui, par médias interposés, autour du devoir d'inventaire de certaines œuvres du passé. Films, romans, BD, sculptures ou encore des tableaux, devenues encombrantes, pour ne pas dire problématiques, en raison de leur contenu. Tess, Lou, Louane, Yebe et Samantha, vous qui avez suivi cette actualité brûlante, expliquez-nous un peu de ce que vous avez appris de ce débat autour de la culture de l'aliénation.
En effet, Rebecca, nous assistons à une vague inédite d'annulations d'expositions, d'incidents lors de projections de films ou de représentations théâtrales, à une réécriture de certains romans comme ceux de Roald Dahl, la mise à index de certains livres parce qu'ils contiennent des passages sexistes, racistes, homophobes ou font l'apologie du patriarcat, ou encore parce que leurs auteurs se sont rendus responsables de délits ou de crimes. Censure, épuration, réparation, dénonciation, culture de l'effacement ou culture de l'indignation face à l'histoire qui ne passe plus, nouveaux moyens pour les minorités de faire entendre leur voix, au contraire, atteinte à la liberté d'expression car on ne peut plus rien dire. Et si cette vague de remise en question s'inscrivait plutôt dans un mouvement long de contestation de la culture de la génération précédente par la nouvelle génération, ancien contre moderne, avant-garde contre académisme, nouvelle vague contre esprit de corporation au cinéma, nouveau roman contre tradition littéraire. Ou, fait nouveau, signe-t-elle l'avènement d'une nouvelle société fondée sur les revendications d'une plus grande autonomie individuelle dans le choix d'une identité personnelle? Ou encore, pour rester sur le plan purement artistique, l'œuvre de son auteur est-elle aussi indissociable de sa personne? Dans l'affrontement, voire la guerre intellectuelle qui se prépare, entre les tenants d'un grand ménage de notre panthéon culturel et ceux qui le défendent, nous avons retenu quelques arguments. Étudiantes de DGEMC, nous nous sommes également intéressées de savoir ce que disait le droit face au déboulonnage de statuts, des interruptions de cours d'université, de la réécriture de certaines œuvres. Alors Lou, qu'est-ce qui t'a interpellée ?
Alors, ce que j'ai pu observer, c'est que du côté des minorités, il y a bien l'envie de convaincre par tous les moyens l'opinion publique. Nous assistons bien à une forme nouvelle d'activisme qui, en s'attaquant aux personnalités et à leurs œuvres, essaye d'attirer l'attention des médias dans le but de faire passer un ensemble de revendications sociétales, culturelles, genrées, d'identité, raciales. La volonté, par exemple, de réécrire la fin du conte mondialement connu Blanche-Neige des frères Grimm, datant de 1812 par deux jeunes journalistes américaines, pour lui donner une nouvelle version conforme aux droits de la femme, souligne un désir d'égalité et de reconnaissance. Mais censurer ce baiser si symbolique ne revient-il pas à réécrire ce conte en ignorant les normes de l'époque ? Doit-on en passer par ce geste radical pour aborder et dénoncer la condition submissive réservée aux femmes par notre société ?
Je ne crois pas. En effet, pour certains, ce geste n'est pas souhaitable. Se réapproprier une œuvre du passé, la moderniser pour l'adapter aux normes et aux idées de notre société actuelle, nous fait prendre le risque d'effacer une partie de notre mémoire collective. Sans histoire, on éradique notre identité. Nous ne pouvons plus interroger ce qui nous a été transmis, en sélectionnant pour nous-mêmes ce qui est juste ou ne l'est pas. N'y a-t-il pas aussi un danger à ne plus pouvoir identifier les erreurs de nos ancêtres et à les répéter inutilement ? Nous avons besoin de connaître l'ampleur des persécutions religieuses, coloniales, raciales, genrées, qui jalonnent l'histoire de l'humanité dans ses moindres détails.
Se posent aussi des problèmes juridiques. Peut-on expurger une œuvre sans l'autorisation de son auteur ? Le faire, c'est nier ses droits. Qui voudra alors écrire sans être protégé ? Que risque-t-on aussi de déboulonner une statue ? C'est loin d'être une petite affaire. 7 ans de prison et 150 000 euros d'amende, lit-on dans l'article 322 du Code pénal, pour atteinte à une valeur patrimoniale.
Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux ou celles qui veulent dissocier les œuvres de leurs auteurs. Vraiment, aujourd'hui, il est important pour les communautés de briser enfin les omertas, les tabous, d'éviter de répandre des opinions et points de vue racistes, homophobes, handiphobes, sexistes et xénophobes. Je pense qu'en effet, le poids des personnalités publiques et de leurs discours pèse fortement sur la pensée des jeunes générations, ce qui peut avoir comme répercussion une reproduction des modèles d'éducation dépassés. Vous voyez l'écrivaine de la saga fantastique Harry Potter ? Par ses propos dits transphobes mis en exergue en 2020, J.K. Rowling a marqué de manière importante les esprits des jeunes adolescents qui se sentent soudainement abandonnés. La remise en question des croyances et usages passés de l'homme participe quelque part à son développement et à son progrès, ainsi qu'à la consolidation de l'égalité. Cette vague activiste nous paraît donc opportune, donner enfin la parole aux minorités permet d'éduquer les générations futures vers une meilleure compréhension et tolérance de l'autre.
Pour conclure, si je vous ai bien compris, le concept de cancel culture, c'est un ensemble de pratiques qui viennent de la part de groupes subalternes ou dominés, qui n'avaient pas la parole dans l'espace public, et qui protestent et s'indignent contre certains abus ou la célébration de certains événements historiques. Ces pratiques sont dénoncées comme une forme de censure par le camp adverse des dominants, qui occupe encore une place centrale dans les médias. C'est, en somme, un bouillon de culture d'où sortiront de nouvelles normes, de nouvelles valeurs.
Merci beaucoup pour votre présentation sur le sujet de la culture. Ceci nous explique une multitude d'événements dont chaque...
Nous attamons alors la dernière rubrique de notre émission, présentée par des élèves de 4e. Ils ont pu, en classe d'éducation morale et civique, explorer les différentes valeurs de la République française, comme la laïcité, la mixité ou encore la tolérance. Je donne maintenant le relais à Julia et Anaïs, qui nous présenteront maintenant le sujet de l'intolérance.
Avez-vous déjà été victime de l'intolérance ? On peut être victime pour notre âge, handicap, origine ethnique, opinion politique, race, sexe, orientation sexuelle, ou même pour notre religion.
Dans ce cas, on parle d'intolérance religieuse. Vous connaissez tous Voltaire, le plus célèbre philosophe du siècle des Lumières, qui a pris parti en dénonçant la condamnation de Jean Calas, un protestant faussement accusé pour le meurtre de son propre fils, Marc-Antoine. Alors que Jean Calas a menti pour essayer de sauvegarder l'honneur de sa famille. Le juge entend une rumeur selon laquelle Marc-Antoine désirait se convertir au catholicisme au lieu de rester protestante comme le reste de la famille Calas. Jean Calas avait un mobile pour tuer Marc-Antoine, donc il a été condamné à mort. Lorsque Voltaire a pris la condamnation de Jean Calas, il a commencé une campagne de réhabilitation et a rédigé son fameux traité sur la tolérance où il dénonce la décision du juge. Après toutes ses actions et ses efforts, la famille Calas a fini par obtenir la révision du procès et finalement, Jean Calas a été innocenté.
À travers cet exemple, on peut voir que les dangers de l'intolérance de religion amènent à la discrimination, à la violence et dans les cas extrêmes, à la mort, comme celle de Jean Calas.
Merci beaucoup Julia et Anaïs. Maintenant, nous verrons Télia et Margot pour leur sujet sur la laïcité.
Tout d'abord, il me paraît important de définir ce que c'est la laïcité. D'après la Larousse, la laïcité est le caractère de ce qui est laïque, indépendant des conceptions religieuses ou partisanes. Et pour vous, la laïcité, c'est la liberté de croire ou non, de partager une religion, de pratiquer une religion ou non, sans l'imposer aux autres et surtout sans que ce soit l'État qui le décide. Elle est inscrite dans la Déclaration universelle des droits de l'homme du 26 août 1789. Le fait que l'État n'ait pas d'emprise sur les religions et réciproquement les individus sont plus libres. En effet, la laïcité donne les mêmes droits à chaque individu, quelle que soit leur religion et leur croyance. Ils peuvent célébrer leur religion sans contrainte. Ils sont donc beaucoup plus libres puisqu'ils seront traités de la même manière, quel que soit leur choix religieux. Mais dans certains pays, comme vous le savez, les principes de la laïcité ne sont pas respectés. En ce moment, en Iran, par exemple,
il y a des manifestations contre la nouvelle règle obligatoire de porter un foulard qui couvre à la fois les cheveux, les épaules et le cou. Une jeune fille iranienne s'est fait arrêter par la police et parce que ses cheveux dépassaient de son voile. Et depuis, les manifestations deviennent plus importantes. Aujourd'hui encore, les femmes se battent pour leur liberté car les principes de la laïcité ne sont pas établis dans ce pays.
Qu'en est-il à l'école ? La laïcité permet une éducation inclusive qui accepte toutes les cultures. Au nom de la laïcité, l'accès à l'éducation est un droit pour tous. Tous les élèves sont égaux, quelles que soient leurs convictions. Elle met tous les élèves au même niveau. Ils sont égaux pour vivre ensemble et apprendre dans les meilleures conditions possibles. Entre copains, avec les professeurs, dans la classe, pour partager, pour s'épanouir. La laïcité est un des grands principes français et repris dans la charte de la laïcité. En août 2021, le ministère d'Éducation a mis en place une campagne de communication pour promouvoir la laïcité dans les écoles en France. Cette campagne a permis de montrer que la laïcité s'inscrit dans le quotidien des élèves en leur permettant de vivre libres, égaux et uniques, quelles que soient leurs convictions. Ici au SCS, toute religion est acceptée. Chaque élève reçoit le même enseignement, quelles que soient ses croyances. Nous sommes une école internationale avec plus de 50 nationalités différentes. On peut donc imaginer que de nombreuses religions sont représentées dans notre établissement et tous les élèves reçoivent le même enseignement. Enfin, la laïcité impose l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans certains pays, le poids de la religion telle que l'égalité entre les citoyens en fonction de leur sexe est bafoué. Prenons l'exemple de l'Afghanistan avec le retour au pouvoir des talibans en 2020. Cela prive les filles et les femmes du droit fondamental à l'éducation où le régime théocratique de l'Iran, le pouvoir d'émane de Dieu. Malgré les mises en garde de diverses associations, dont Solidarité laïque, les droits de l'homme ne sont tout simplement pas respectés. La laïcité est un des grands principes de la République qui permet de vivre libre et égaux, quelles que soient nos convictions. La laïcité garantit la liberté de conscience et donc la liberté d'exprimer ses croyances ou ses convictions dans les limites du respect des autres. La laïcité est au service des écoles et de l'administration. Elle nous permet donc de bien vivre ensemble.
Merci Télia et Margot. La laïcité est effectivement une caractéristique fondamentale de l'enseignement français. Laissons maintenant la place à Louise et Gabriel qui vont nous présenter un autre aspect de l'éducation française, la mixité.
Selon les données de l'Institut de statistique de l'UNESCO, moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes. Certains diront qu'après tout, ce n'est pas un drame. Cependant, cette sous-représentation féminine est problématique, car elle creuse un fossé entre les femmes et les hommes dans le monde scientifique. De plus, de nombreuses études ont révélé que les femmes publient moins d'articles, qu'elles sont moins payées et moins reconnues pour leurs travaux de recherche, et que leur carrière ne progresse pas aussi rapidement que celle des hommes. Une enquête toujours menée par l'UNESCO montre combien les décisions familiales, les considérations financières et la discrimination envers les femmes impactent leur carrière. Un projet proposé encore par l'UNESCO appelé SAGA a été installé pour essayer de réduire l'écart entre les hommes et les femmes dans le monde scientifique. SAGA a présenté une liste d'objectifs pour favoriser l'égalité des genres dans la science et pour encourager les femmes à travailler dans ce domaine. Ils souhaitent changer les perceptions, les attitudes, les comportements, les normes sociales et les stéréotypes, favoriser l'accès et encourager les femmes à entreprendre des études supérieures en sciences. Pourtant, les études montrent que les filles ont une meilleure réussite scolaire que les garçons. Mais peu d'entre elles choisissent d'étudier dans des filières scientifiques après le bac. En 2021, il y avait environ 36 400 femmes inscrites en filière scientifique. Certes, depuis les années 1990, les écoles d'ingénieurs assistent à une féminisation constante, mais les filles ne représentent que 40% des étudiants des filières scientifiques.
Alors, que faire pour changer les choses ? Il y a des solutions, restons optimistes. Il faut encourager les femmes à s'engager dans les filières scientifiques. Il est important que des chercheuses viennent parler aux filles dans les écoles. La Fondation L'Oréal, avec le programme Women for Science, reconnaît tous les ans les grandes femmes scientifiques des 5 continents. Elle récompense des lauréates nationales ou régionales qui sont au niveau du doctorat ou post-doctorat. Celles-ci vont dans les lycées pour parler de leur carrière à des lycéennes. De nombreuses associations, comme la Fondation C'est Génial, travaillent aussi à faire venir des ingénieurs dans les écoles ou à inviter des classes dans les entreprises. Deux jeunes femmes ingénieures agronomes ont créé en 2016 une association qui promeut la mixité dans les sciences. WAC Science, avec de nombreux projets, une plateforme en ligne, des événements, des expositions et même une application smartphone. De nombreuses grandes entreprises mettent en place aujourd'hui du coaching ou des réseaux d'influence pour encourager les femmes à dynamiser leur carrière. Les études montrent que la parité apporte une meilleure efficacité dans l'entreprise. En France, les organismes de recherche et les universités s'attaquent au problème, et l'Académie des sciences également, avec l'élection de grands talents féminins. Pour conclure, je dirais que le plus important, c'est que chacun, homme comme femme, ait conscience de l'importance de l'égalité, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans la vie quotidienne.
Merci beaucoup aux élèves de 4e pour vos précieuses informations portant sur les valeurs de la République française. Notre émission touche désormais à sa fin, mais c'était un plaisir de passer ce moment de radio avec vous. Et un très grand merci à nos auditeurs, aux élèves intervenants, ainsi que les professeurs qui ont organisé ce projet. C'était l'info sur tous les fronts par les élèves du lycée Condorcet de Ciné. Écoutez toute la semaine les émissions du réseau AEFE. À une prochaine fois sur les antennes de Twitch AEFE Info. Bonne journée à tous.